Je pense que c'est très bien de parler après Jean-Marie Durand, non pas parce que tout aboutit à la Bible, ça je ne le dirais pas, mais je crois qu'il y a quand même un certain nombre de parallèles ou des reprises qu'on peut voir. Je parlerai notamment des Assyriens dans un petit instant. Quelques remarques introductives en ce qui concerne ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la Bible ou l'Ancien Testament. Le terme Ancien Testament est un terme très problématique, d'abord parce que c'est une invention chrétienne, et ensuite aussi parce qu'il suggère que ce qu'on appelle l'Ancien Testament n'est pas autosuffisant, a besoin d'une suite. Alors ce n'est pas du tout dans ce sens-là que la Bible hébraïque s'est construite, bien au contraire, ça s'est construit en effet comme une unité, mais une unité dans la diversité justement, parce que, première remarque qu'on peut faire, il n'y a pas de nom vraiment pour cette Bible. Nous avons pris l'habitude d'appeler ça la Bible, mais la tradition juive, en fait, n'a jamais su comment l'appeler. Donc, on a inventé un acrostiche, Tanakh ou Tenakh, en mettant simplement à côté les trois parties qui forment cette Bible, Torah, Nevi'im et Ketuvim, donc loi, prophète et écrit. Déjà, ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, il y a une unité, mais une unité presque un peu juxtaposée, puisqu'il n'y a pas un nom qui peut résumer le tout. Parfois, on dit par extension Torah pour désigner l'ensemble du texte biblique, ce qui montre aussi que c'est la première partie qui est considérée comme la partie la plus importante. Un mot encore pour le terme Torah, qu'on traduit en fait par « loi ». À cause en fait de la traduction grecque qui a traduit Torah par nomos, mais en fait Torah, si on veut faire de l'étymologie, bon, l'étymologie n'explique pas toujours tout. Torah, c'est plutôt l'enseignement ou l'instruction. Et en effet, nous avons là quelque chose qui est tout à fait intéressant et important pour comprendre le judaïsme. Il y a une sorte de mélange entre des textes qu'on peut en effet appeler des textes prescriptifs, juridiques, et des récits. Mais des récits qui ont du coup la même valeur, qui interagissent en fait avec le droit. Donc on peut soit dire le droit est partout ou la narration est partout, selon où on veut mettre l'accent. Deuxième remarque encore introductive, c'est le fait que cet ensemble n'a pas été fixé à un moment donné en ce qui concerne l'ensemble, mais que c'est un long processus qui s'étale au moins sur 6 ou 7 siècles. La première partie la plus ancienne, la Torah, à laquelle je me concentrais, a vu le jour dans une forme canonique ou proto-canonique vers 400 avant notre ère. Ensuite sont venus les prophètes, là c'est plus compliqué de savoir. Et finalement, la troisième partie, ce qu'on appelle les écrits, en fait ont vu l'ère seulement après l'ère chrétienne. Donc c'est presque une sorte de réaction ou de dialogue avec une partie du judaïsme qui va ensuite clamer son indépendance sans l'avoir vraiment tout à fait, puisqu'il va garder justement cette partie-là. La Torah est en effet aussi au centre dans l'approche juive, à savoir que c'est à partir de la Torah qu'il faut comprendre les prophètes et les écrits. On peut aussi encore réfléchir, malheureusement le temps me manque à ce niveau-là, sur le fait qu'il y a là trois approches en fait de la réalité qui sont juxtaposées. Je reviendrai là-dessus dans un petit moment. Une approche de Torah, de loi, d'instruction, de prophète, donc presque un peu de contestation, et de ketuvim, donc d'écrit, qui souvent est la sagesse. Donc il y a une sorte de trois postures qu'on peut dire légales, prophétiques, contestataires et sapientiales. Ce que je voudrais faire dans la suite, c'est un plan donc en 5 parties. J'aimerais partir des origines, une religion nationale, pour vous parler alors là des Assyriens, une monolatrie anti-assyrienne et exclusiviste. Donc ne prenez pas des dates pour des réalités, c'est simplement pour vous suggérer une chronologie qui est évidemment beaucoup plus complexe. D'une monolatrie exclusiviste ensuite vers un monothéisme universaliste, la publication, la diffusion du Pentateuch. Là, il y a un passage important du rite à l'écrit ou de cohabitation entre le rite et l'écrit. Et finalement, diversité, unité de la Torah, interprétation et actualisation. Donc, j'ai en effet moins de millénaires à couvrir que Jean-Marie Durand. Mais si on prend le cinquième point, ça peut aller jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a quand même aussi 3000 ans d'histoire. Voilà. Alors, quelques remarques sur les origines. La première mention que nous avons du nom d'Israël se trouve dans une stèle égyptienne, c'était trop vite, dans une stèle égyptienne bien connue du pharaon Merneptah, qui présuppose vers la fin du deuxième millénaire une entité du nom d'Israël quelque part dans les montagnes d'Éphraïm. C'est une entité qui est autochtone. Il n'est pas dit que ces gens-là viennent d'Égypte. Ils sont apparemment suffisamment importants pour que le pharaon puisse se vanter de les avoir vaincus. Et il s'agit là d'un peuple qui va donner, ou alors d'un groupe, on ne sait pas très bien comment il faut désigner les unités, groupe, peuple, certainement pas encore nation, qui va donner son nom à une entité royale à partir de 1000 avant notre ère. Et là, peut-être aussi une remarque qui est intéressante. Ce que nous imaginons aujourd'hui quand nous entendons Israël ne correspond pas à la réalité première. C'est-à-dire, le terme politique d'Israël entre 1000 et 722 concerne en fait une nation, un État qui se construit autour de Samarie, mais qui n'inclut pas justement ce qui après dans l'imaginaire devient même le centre d'Israël, à savoir Jérusalem et la Judée, qui existe en fait comme un État indépendant sous l'ombre en fait du grand frère Israël qui se construit donc à partir d'un nom divin, Israël, qu'il combatte ou qu'il se manifeste comme patron, comme chef. Deuxième remarque en passant, mais qui a un certain intérêt, ça veut dire que c'est une entité qui se construit à partir d'un nom divin qui n'est pas celui du Dieu d'Israël, Yahvé ou Yahou, on ne sait pas très bien exactement comment ça s'est prononcé. Et ce qui montre aussi, évidemment, que cette arrivée de Yahvé comme Dieu d'Israël est quelque chose de relativement tardif, récente, que Israël précède d'une certaine manière l'existence de Yahvé qui devient le dieu tutélaire, le dieu national de ces deux entités. Là, il y a encore aussi question pour les historiens, pourquoi il y a deux peuples, en fait, ou deux peuples, deux entités qui ont le même dieu national. Ce qu'on peut très bien voir, et je le dirai très brièvement, qu'à cette époque-là, Yahvé ne se comporte guère différemment que les dieux du Levant, voire de la Mésopotamie. Peut-être il faut faire une distinction entre les dieux de la Mésopotamie et les dieux du Levant. Yahvé n'est pas célibataire, comme on l'a dit très souvent. Il est quand même associé à une parèdre, à une Asherah. Il est aussi considéré dans certains textes comme étant le fils de El. Donc il s'inscrit en fait dans une généalogie des dieux et il est considéré en effet comme le dieu tutélaire qui est en effet le dieu qui donne la victoire et la fertilité et qui est représenté par le roi, comme le montre un certain nombre de psaumes où le roi est appelé fils de Dieu ou image de Dieu, comme c'est aussi le cas dans des textes égyptiens et aussi certains textes mésopotamiens. Ça, c'est la version tout à fait traditionnelle du lien entre religion, État, royauté, qui va perdurer jusqu'à 722. 722, je dirais, il y a en effet un premier événement qui va changer, qui va préparer un avènement monolatrique, qui est en effet chute de Samarie, c'est-à-dire l'intégration dont a parlé tout à l'heure Jean-Marie Durand, l'intégration en fait d'Israël dans l'Empire assyrien. Et du coup, ce que nous montre l'archéologie, c'est que c'est seulement à ce moment-là que Juda et Jérusalem gagnent en importance. Avant, Jérusalem est un lieu assez insignifiant et on peut se poser la question si c'est à ce moment-là que le nom d'Israël, le terme d'Israël, est revendiqué d'une certaine manière par le royaume de Juda, qui peut-être considère maintenant, après la disparition du grand frère dans le nord, que c'est eux le vrai Israël. Donc on aura peut-être quelque chose de comparable à ce qui se passe au niveau des empereurs germaniques qui clament de continuer le Saint-Empire romain, donc se voyant héritier en fait d'un passé mystifié, mythologisé, ce qui peut être aussi le cas à ce moment-là. Mais c'est certainement aussi un moment de déplacement de population. Ce qu'on peut voir, que Jérusalem devient une ville importante et que nous avons certainement, à la suite de la destruction de Samarie, l'arrivée d'un nombre important de réfugiés dans le petit royaume de Juda. Donc Jérusalem triple sa population, on parle des nouveaux quartiers qui sont construits, confirmés d'ailleurs par l'archéologie, et sans doute aussi l'arrivée des textes, des traditions du nord dans ce royaume de Juda, qui peut-être maintenant revendique être Israël. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les Assyriens dans ce qu'on appelle la réforme du roi Josias, avec cette idée en fait que le temple de Jérusalem devient le seul sanctuaire légitime. Ça, c'est quelque chose qui est appelé réforme, mais en fait, il faudrait plutôt parler de révolution, parce que c'est une idée assez inhabituelle. Bien sûr, il y a toujours compétition entre les sanctuaires, mais le fait de dire que le Dieu national ne peut être vénéré qu'un seul sanctuaire avec des sacrifices est quelque chose d'assez nouveau, et s'explique par plusieurs choses. S'explique par le fait que Jérusalem, pour la première fois, devient une ville importante, et veut peut-être aussi manifester ainsi sa supériorité, son exclusivité, mais sans doute aussi parce que les temples sont aussi les recettes d'impôts, et centraliser le culte, c'est aussi centraliser les impôts, et sans doute aussi centraliser le droit. Parce que c'est dans ce contexte-là que va apparaître pour la première fois un texte de prescription, le Deutéronome, la première version du Deutéronome, je reviendrai, mais c'est aussi dans ce contexte-là que va se mettre en place l'histoire de Moïse, premier médiateur, qui est construit en effet comme une figure royale, mais qui peut-être du coup aussi sert déjà d'une certaine manière à remplacer le roi. Donc là, je vais aller très très vite. Vous connaissez tous l'histoire de la naissance de Moïse, avec en effet une histoire assez curieuse. Le père de Moïse, inconnu au bataillon, la mère toute seule va l'exposer sur le Nil pour qu'il puisse être ensuite adopté par la fille du pharaon. Et évidemment, le parallèle le plus intéressant, le plus proche, c'est l'histoire de la naissance de Sargon, qui se réfère au grand roi Sargon, quelque part au troisième millénaire. Je ne sais pas quelles dates sont proposées actuellement pour ce roi. Peu nous importe, les textes qui racontent sa naissance, qui est tout à fait parallèle, aussi donc fils d'une femme, prêtresse ou prostituée, également exposé et recueilli, non pas là par la princesse, mais par Aki et ensuite la déesse Ishtar. Ces textes-là datent justement du 8e-7e siècle. Et on peut en effet voir que Moïse est construit ici comme le fondateur des Assyriens. Et c'est ce que je dis souvent, je le répète, sans les Assyriens, il n'y aura jamais eu de Bible. Parce que les premiers écrits bibliques, c'est des réactions à la propagande assyrienne. On peut appeler ça une contre-histoire, on peut appeler ça la subversion, on peut appeler ça la copie. Il y a toutes sortes de postures qu'on peut avoir, mais sans les néo-assyriens, qui ne sont pas toujours en odeur de sainteté, on n'aura pas des textes bibliques. C'est vrai pour l'histoire de Moïse, bien qu'il y ait une tradition certainement antérieure qui est reformulée, mais la présentation de Moïse se fait sur le modèle assyrien, et c'est également le cas pour la première édition du Deutéronome dont je vous ai déjà parlé et qui en fait reflète tout à fait l'idéologie de l'exclusivisme assyrien en ce qui concerne le grand roi assyrien. Donc un certain nombre de spécialistes suggèrent en fait que la première version du Deutéronome est la copie tout à fait précise d'un texte, d'un traité assyrien, celui de 672. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à là, mais si vous comparez ces deux extraits, on pourrait y ajouter les malédictions, les bénédictions, vous êtes tout à fait dans la même idée, c'est-à-dire qu'il y a un suzerain auquel on doit loyauté absolue, qui doit se perpétuer dans les générations à suivre et qu'il ne faut surtout pas chercher d'autres seigneurs. Évidemment, là, c'est Assurbanipal, c'est-à-dire le prince héritier. Dans le Deutéronome, on a remplacé le roi assyrien, non pas par le roi judéen, et c'est peut-être là déjà un changement intéressant, mais par Yahvé, le dieu d'Israël. Donc il y a une certaine manière, peut-être une sorte déjà d'affaiblissement du pouvoir royal, c'est Yahvé qui est le dieu exclusif à vénérer et qui prend la place du grand roi assyrien. C'est également le cas pour ce qui était déjà évoqué par Jean-Marie Durand, par cette propagande assyrienne en ce qui concerne en effet les conquêtes. Je ne suis pas sûr que le harem dont a parlé Jean-Marie, ça s'est vraiment pratiqué. C'est économiquement pas très plausible. Je ne pense pas qu'on a exterminé des populations entières. On a peut-être sacrifié un pauvre esclave ou un âne ou un bœuf et puis on a considéré que ça fasse le pars pro toto. On le voit d'ailleurs très bien dans la stèle de Mécha, parce que dans la stèle de Mécha, il y a d'abord le fait que tout le monde a été passé par l'interdit et après on voit comment on a utilisé les prisonniers de guerre pour toutes sortes de travaux utiles pour le roi de Moab. Donc j'imagine que c'est un peu la même chose. Seulement, ce que je voulais dire, l'idée même d'une conquête est une pure invention. Historiquement, Israël ne s'est jamais installé suite à une conquête, à une sorte de blitzkrieg de quelques semaines. C'est un processus beaucoup plus complexe et surtout autochtone qui n'a pas du tout le profil de ce qui est raconté dans le livre de Josué. Le livre de Josué ne s'explique en effet, comme l'avait dit aussi Jean-Marie, comme une réaction à un certain nombre des textes assyriens. Je vous avais ici un exemple parmi tant d'autres. La lettre aux dieux du roi Sargon II raconte en fait sa victoire de manière tout à fait comparable ce qui est dit dans le livre de Josué, à savoir que la divinité jette du ciel des super grêlons pour anéantir l'ennemi. Donc ça veut dire que vous avez en effet, au moment où s'élabore un exclusivisme, non pas monothéiste, monolatrique, puisqu'on ne conteste pas les autres dieux, on va dire ne courez pas après les Elohim Acherim, il ne faut pas les suivre, donc ils sont là, mais ce qui est important pour Israël, c'est ce dieu unique, mais qui n'est pas unique dans le sens qu'il est seul, mais qu'il est unique en ce qui concerne la relation que doit avoir le peuple. Cette construction-là est une construction qui, tout d'un coup, devient une construction exodique avec l'idée qu'on vient d'ailleurs, donc c'est une idéologie de colonisateur, on vient d'ailleurs et on est amené par la divinité dans un pays qu'il faut conquérir. Ce n'est pas du tout le cas d'une autre tradition qui est celle des patriarches, où on peut montrer, ça il faut que vous me le croyez maintenant, puisque je ne peux pas vous le démontrer maintenant, que les premières histoires d'Abraham, ce n'est pas l'ancêtre qui vient de Babylone, ça c'est quelque chose qui viendra beaucoup plus tard. L'Abraham primitif est un Abraham autochtone. Il est d'ailleurs parfois comparé à une sorte de pierre qui a toujours été dans ce pays. Et là, la relation au pays est très très différente. C'est plutôt par la cohabitation qu'on va régler les affaires, c'est pas par l'expulsion et l'extermination. Donc là, on a une idée en fait que la possession du pays à un groupe n'exclut pas que ce même pays est également possédé par d'autres. On voit ça d'ailleurs aussi par, Jean-Marie a déjà mentionné les deux fils d'Abraham, il y a une très haute estime dans ce récit ancien pour Ismaël, le premier fils, puisque son nom va être expliqué par une sorte d'équation quasi mathématique. On va dire qu'il s'appelle Ismaël, Ishmael, parce que Shama Yahu, parce que Yahvé a écouté. C'est-à-dire, vous avez deux fois Shama, mais à la place de El, vous avez Yahvé. Donc, comme ça veut dire que El est égal Yahvé. Donc, Abraham est donc à la fois l'ancêtre des tribus arabes ou proto-arabes et de la ligne qui va aboutir à Israël. Troisième élément, c'est la crise, je dirais la crise fondatrice, la destruction de Jérusalem par les Babyloniens qui étaient déjà mentionnés et qui en fait mettent en question les structures identitaires traditionnelles. Le temple est détruit, le dieu national semble être vaincu ou avoir abandonné son peuple, le roi se trouve en exil, le pays est occupé, il n'y a de toute façon plus de cohésion géographique puisqu'il y a des gens qui ont été amenés à Babylone, d'autres se sont installés en Égypte, d'autres restent dans le pays. Et c'est là, en fait, je pense que c'est ça l'événement fondateur, est presque un peu paradoxal, parce que c'est à partir de ce moment-là, on aurait pu très bien imaginer que ce petit peuple judéen va se dissoudre simplement dans l'empire babylonien puis perse, ce qui est arrivé en effet aux Ammonites, aux Moabites, aux Édomites, dont on n'entend plus tellement parler après, sauf que pour des termes géographiques. Là, il y a quelque chose qui est paradoxal, qu'il faut expliquer, et on peut utiliser, je dirais, un concept sociologique qui a été élaboré pas du tout pour la Bible, mais par rapport aux réactions face à la Révolution française. Donc, je ne vais pas vous mettre cela en détail. Cette enquête montre que le mot de crise entre dans les langues européennes de manière forte, que ce soit l'anglais, l'allemand ou le français, aux alentours de la Révolution française et délimitant trois attitudes par rapport à une crise. L'attitude que l'auteur appelle, je pense qu'il s'inspire beaucoup de Max Weber, l'attitude du prophète, l'attitude du prêtre et l'attitude du mandarin. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une attitude où vous disiez, en fait, la crise, elle est nécessaire puisqu'elle va provoquer un état nouveau, donc il faut passer par la crise pour arriver à un état nouveau, à un avenir meilleur. Donc, on a un discours eschatologique ou utopique. On peut avoir une attitude qu'il y a appelée ici de prêtre ou de sacerdotal, c'est-à-dire des gens influents dans le passé et qui rêvent en fait un retour aux origines pour dire en fait la crise nous montre qu'il faut retrouver les origines, se refonder sur les mythes d'origine, donc une vision un peu pathologique de la crise. Et finalement, ce que l'auteur appelle la position du mandarin, imaginez pourquoi il a choisi ce terme-là, mais bon, je ne vais pas détailler cela, c'est en fait non plus tellement la question est-ce que c'est mieux ou pire après la crise, c'est pourquoi la crise est-elle arrivée. C'est-à-dire, c'est un questionnement analytique et c'est à l'origine en fait de l'historiographie moderne qui justement aussi se met en place à partir du 18e siècle. Et donc très brièvement, ce qu'il me semble on peut montrer, que la diversité des discours bibliques se compose en partie à partir de ces trois attitudes. Donc vous pouvez prendre un prophète comme celui qu'on appelle le deuxième Ésaïe, qui justement considère au début de l'époque perse la crise de la destruction de Jérusalem comme étant des choses passées, amenant en fait un avenir meilleur. Donc le discours de jugement va se transformer en une sorte de discours eschatologique. La crise, elle est dépassée pour déboucher en fait sur une nouvelle création et aussi sur un universalisme du Dieu biblique. Parce que désormais, dans ce même livre, on peut utiliser un roi étranger, qui est Cyrus, pour l'appeler le Messie de Yahvé. On peut montrer comment c'est Cyrus qui se fait célébrer par le clergé de Marduk à Babylone, et célébré de la même manière par les compositeurs, les auteurs du livre d'Ésaïe. C'est-à-dire, c'est dans ce livre qu'on va affirmer maintenant que le Dieu Yahvé est pas seulement le Dieu d'Israël, donc pas seulement un Dieu qui a une relation particulière avec un peuple, mais aussi le Dieu universel par excellence, puisqu'il peut en fait considérer le roi perse comme étant son Messie, donc changeant alors aussi de manière radicale l'idéologie royale traditionnelle. Deuxième position qu'on peut appeler celle des mandarins, c'est ce que les biblistes appellent l'histoire deutéronomiste. C'est-à-dire, c'est à partir du livre du Deutéronome, on a écrit, on a rassemblé des textes qui vont donc du Deutéronome jusqu'au deuxième livre des rois pour expliquer pourquoi la destruction de Jérusalem est arrivée. Bien sûr, nous n'avons pas ici affaire d'une historiographie dans le sens moderne, ni dans le sens grec, mais dans le sens quand même qu'on construit l'histoire en différentes époques pour arriver en effet à l'idée que l'exil et la destruction de Juda s'expliquent par la colère de Yahvé. C'est-à-dire, ce n'est pas ni une sorte d'événement inattendu et imprévisible, ni non plus signe de la faiblesse de ce Dieu d'Israël et de Juda. Au contraire, tout ça est arrivé à cause de la colère de Yahvé. Cette histoire se termine de manière assez curieuse, puisque la dernière chose qui est racontée, c'est le fait que le dernier roi de Juda va changer de position dans sa prison babylonienne. Il est sorti de prison, on lui change les vêtements, et il devient simplement le deuxième après le roi babylonien. Mais il ne revient pas. Il ne revient pas. Il reste à Babylone. Donc, on ne sait pas très bien comment il faut interpréter cette fin. Il y a des livres entiers qui ont été écrits à ce sujet. Si vous avez des idées, je suis tout à fait preneur. Je pense que la meilleure explication, c'est simplement de dire que vous avez ici une sorte de transformation d'une situation d'exil en diaspora, c'est-à-dire maintenant le fait qu'on est ailleurs, à Babylone ou en Égypte, n'est plus signe simplement d'un accident ou d'une punition ou d'un état provisoire, ça devient un état qui est appelé à durer. Et sans cette fête diaspora, on ne peut pas comprendre ni la Bible ni le judaïsme. La Bible, c'est aussi une littérature de diaspora. Et donc, du coup, aussi, la question, c'est celle de la validité des textes. Où est-ce que ces textes, en fait, sont appelés à être mis en pratique? Est-ce que c'est seulement dans le pays ou est-ce que c'est partout où il y a des Judéens qui, petit à petit, vont être appelés juifs? Donc, vous avez cette... Et puis, évidemment, ça va de pair. Ça va de pair avec la construction des synagogues. Ça va de pair avec la construction des synagogues. On ne sait pas au niveau archéologique quand est-ce qu'on a les premiers synagogues, mais c'est certainement à partir du 5e, 4e siècle que, à côté du temple, on a maintenant des maisons, simplement, où on ne fait pas de rites ni des sacrifices, mais où on lit des textes, et je reviendrai là-dessus. À côté de ce modèle exilique diasporique, vous avez un tout autre modèle qui va se construire autour des récits patriarcaux. Alors, très brièvement, on peut voir comment Abraham a été d'abord considéré comme une figure d'identification de la population non exilée, puisqu'il y a des textes qui montrent qu'il y a tout un conflit sur la question à qui appartient le pays. Au moment où les exilés avaient au moins la possibilité de revenir, il y a un grand conflit territorial. C'est exactement ce qui s'est passé, et ça me touche assez de près, ce qui s'est passé après la chute de Mur, où tout d'un coup, il y a des Allemands de l'Ouest qui sont arrivés à l'Est en disant « avant qu'on ait parti, c'était à nous, et puis on va revendiquer, on va récupérer les maisons qui, pendant 40-50 ans, ont été exploitées, possédées par d'autres personnes », ce qui d'ailleurs a posé une question juridique assez complexe et compliquée. Et je pense que c'est un peu de cette manière-là aussi qu'il faut imaginer cette crise en 500 à peu près, avant notre ère. Ce qui est intéressant avec la construction de l'histoire d'Abraham, c'est une autre identité qui est mise en avant, c'est une identité généalogique. Alors que dans l'histoire de Moïse, les généalogies ne jouent aucun rôle. Moïse n'a pas de successeur au niveau familial généalogique. Ses fils disparaissent dans la nature, on ne sait pas très bien à quoi ils servent d'ailleurs. Son successeur est quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Il est médiateur, il n'est pas ancêtre. Alors qu'Abraham est un ancêtre et la Genèse construit son histoire en montrant en fait que quasiment tous les peuples qui cohabitent dans le Levant sont de la famille d'Abraham. à part les Philistins qui sont les non-circoncis et qui après peut-être sont identifiés plus tard aux Grecs, mais avec lesquels on peut aussi cohabiter puisque Abraham séjourne chez le roi Abimélec appelé Philiste. Finalement, la dernière vision identitaire, c'est celui que j'ai appelé le milieu des prêtres ou le milieu sacerdotal, qui en effet fait peut-être pour la première fois le lien entre l'idéologie mosaïque, exodique et celui des patriarches. Parce que lorsque Yahvé se présente à Moïse dans le livre de l'Exode, il se présente en effet pour la première fois comme étant Yahvé, tout en disant à Abraham, je ne me suis pas présenté comme Yahvé, mais comme El Shaddai, suggérant ainsi une sorte de succession de la révélation des aspects du divin. Et on peut en effet montrer qu'il y a l'idée de trois étapes de la révélation. Et ça, c'est, je pense, c'est important. C'est une sorte de tentative de penser ensemble le particulier et l'universel, puisque on va dire que à l'humanité entière, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, s'est en effet révélé sous le nom de Elohim, qui est à la fois un singulier et un pluriel, ce qui complexifie encore les choses. Ensuite, pour toute la descendance d'Abraham, c'est El Shaddai, c'est une divinité du type El, et nous avons des textes justement qui montrent que les Shaddaïnes sont aussi vénérés par ces tribus proto-arabes. Et finalement, le privilège de Moïse et d'Israël, c'est de connaître le vrai nom de Yahvé. Mais en même temps, ça signifie aussi que tous les autres peuples, qu'il parle de Elohim, de El Shaddai, ou encore peut-être de Assur, à cette époque Assur, je crois, il a déjà un peu disparu de la scène. Tous ces divinités-là, finalement, sont considérées comme des manifestations de Yahvé, seulement que les autres peuples ne le savent pas. Donc là, vous avez une sorte de concept de monothéisme inclusif qui, en effet, essaie de penser ensemble l'unité et la particularité ou la diversité. En même temps, ces auteurs construisent aussi une histoire qui va de la Genèse jusqu'à l'Exode, ou jusqu'au Lévitique peut-être même, et qui, en effet, est une histoire qui intègre tout ce qui devient, en fait, important pour le judaïsme naissant. Le sabbat, il est donné dès la création, découvert par Israël dans le désert. Dès le déluge, on a l'interdit du sang qui va être précisé plus tard dans toutes sortes de prescriptions alimentaires. La circoncision, elle est donnée déjà à Abraham. La Pâque au moment de la sortie d'Égypte et le culte sacrificiel et les interdits alimentaires sont également donnés au Sinaï. Ça veut dire en fait que toutes les institutions, y compris la loi, sont données en dehors du pays et en absence du roi. Donc d'une certaine manière, vous avez ici l'origine même de l'idée de la séparation du religieux et de l'État. Vous n'avez plus besoin de l'État pour garantir l'exercice d'un rituel ou des rituels d'une religion, parce que, en effet, tout cela est fondé non pas dans la royauté, non pas non plus dans la possession d'un pays, mais à l'extérieur d'un pays, dans une sorte de no man's land qui est le désert, mais justement, c'est là où tout est révélé. Et Moïse, justement, va mourir en dehors du pays. Moïse ne va pas entrer dans le pays. Et le judaïsme a ensuite, en effet, terminé le Pentateuque avec la mort de Moïse et non pas avec l'entrée dans le pays. Donc, je pense que ça, c'est très important à la fois pour l'intelligence du judaïsme, mais même aussi, je dirais, pour l'intelligence des trois religions monothéistes, une sorte de découplage ici entre l'État, le territoire, le pouvoir politique et le religieux. Et cela va, en effet, ça s'explique historiquement tout à fait, puisque ça se met en place aux alentours de 400 jusqu'à 300, grosso modo, sous les Perses et qui apparemment a une tolérance religieuse assez importante. Les Perses sont très bien vus dans les textes bibliques. Aucun texte biblique critique les Perses dans l'emblée. Parfois, il y a des problèmes, mais c'est parce que le roi est mal conseillé ou parce qu'il y a des méchants à l'intérieur de la cour. Mais les Perses, en général, contrairement aux Babyloniens, aux Assyriens ou aux Égyptiens, ce n'est pas des méchants. Au contraire, c'est des bons et qui, en effet, encourage même, selon le récit biblique, la publication d'une loi, puisqu'on constate que, selon le récit biblique, vous avez deux protagonistes, Néhémie et surtout Esdras, qui symbolisent la publication du Pentateuque, qui nous viennent en effet de la Mésopotamie, envoyés par le roi perse pour appliquer ou pour faire connaître la loi du roi des cieux. Et le terme de roi des cieux est intéressant aussi, puisque évidemment pour les Judéens, le roi des cieux, qui c'est personne d'autre que Yahvé. Pour les Perses, ça peut être aussi un titre pour Ahura Mazda, repris des Assyriens et des Babyloniens. Donc ce Pentateuque va être en effet une sorte de mise en commun entre ces textes de Deutéronome et de la tradition deutéronomiste, de la tradition des prêtres, mais tout en y intégrant aussi une perspective de diaspora très forte, notamment c'est le cas dans l'histoire de Joseph, qui fait entendre aussi la voix de la diaspora égyptienne. Parce que vous avez à côté de la diaspora babylonienne qui est dominante d'une certaine manière et qui est restée au moins jusqu'à l'arrivée de l'islam, puisque le Talmud le plus important, ce n'est pas le Talmud de Jérusalem, mais le Talmud de Babylone. À côté de cela, vous avez une diaspora, j'ose dire, plus libérale, qui se donne un récit fondateur dans l'histoire de Joseph. Je ne vais pas maintenant vous raconter l'histoire de Joseph, simplement pour vous rappeler que l'image de l'Égypte est tout à fait différente dans l'histoire de Joseph que dans l'histoire de l'Exode. Le pharaon est tout à fait accueillant, il peut discuter théologie avec Joseph, on parle de Elohim. Joseph lui-même devient gendre d'un grand prêtre égyptien, et selon l'histoire de Joseph, deux des tribus d'Israël, Éphraïm et Manassé, sont en fait à moitié égyptiens. Ce qui est une horreur pour d'autres sensibilités, parce que dans les généalogies qu'on va trouver après dans les livres des chroniques, on va bien sûr éliminer toute allusion à cette idée. Je ne vous parle pas maintenant de l'étendue du Pentateuque, parce qu'on a pu imaginer à un moment donné aussi que ce premier ensemble ne se termine pas avec la mort de Moïse, mais avec la conquête du pays, ce qui aurait fait en effet une identité tout à fait différente, à savoir une identité concentrée ou centrée sur le pays, et ce qui, à mon avis, aurait été rendu impossible même l'existence du judaïsme, alors que la Torah est centrée sur Moïse et sur la Torah, la loi, dont Moïse est le médiateur. Donc, on peut en effet dire que le Pentateuch est une unité dans la diversité, c'est-à-dire, pour reprendre une citation peut-être un peu trop souvent dite maintenant de Heinrich Heine, une patrie portative, à savoir que vous avez maintenant en fait un espace qui n'est plus lié à un pays, à une institution que vous pouvez amener à Babylone, en Égypte, en Samarie, à Jérusalem et ailleurs. Et pour vous donner quelques exemples très brièvement, pour ne pas trop dépasser le temps qui m'en partit, quelques exemples de cette diversité et unité de la Torah. Premier exemple qui est très important et qui pose encore beaucoup de questions, la question est loin d'être résolue, c'est le fait que le Pentateuque, la Torah, est devenu le document fondateur, pas seulement des Judéens, mais aussi des Samaritains. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qui se sont en fait, ou qui se considèrent toujours comme étant en fait les vrais juifs, parce qu'ils ont gardé que la Torah. Et comment ça peut se faire avec l'idée qu'il n'y a en effet qu'un lieu de culte légitime, ce qui est l'idée centrale du Pentateuch? En Deutéronome 12, il est dit en effet, Yahvé va choisir un lieu pour faire habiter son nom. Alors quel est ce lieu? Évidemment, si vous êtes à Jérusalem, c'est clair, c'est Jérusalem. Mais pour les Samaritains, ça a toujours été le mont Garizim. Et on constate en effet que dans toute la Torah, le mot Jérusalem n'existe pas, n'est jamais mentionné. Peut-être ça a été supprimé. Il y a une allusion à Jérusalem au début de l'histoire d'Abraham, quand il rencontre un roi à Shalem, c'est sans doute une allusion à Jérusalem, mais le mot n'est pas mentionné. Alors que vers la fin du Deutéronome, le Garizim est, mentionné, ou disons peut-être mentionné par allusion parce qu'il est question de Sichem, mais qui est sans doute une concession aux Samaritains. Et également, je vous ai dit qu'il y a cette loi qui dit qu'il y a un seul lieu que Yahvé va choisir pour y faire habiter son nom, ça c'est Deutéronome 12, et qui en fait a aussi une conséquence assez intéressante, à savoir s'il y a un seul lieu qui est choisi pour qu'on puisse y pratiquer le sacrifice, Deutéronome 12 va permettre ce qu'on appelle parfois l'abattage profane d'animaux, c'est-à-dire en dehors d'un sanctuaire. Alors, vous avez deux autres textes qui disent autre chose. Vous avez Exode 20, qui introduit la première collection de lois, ce qu'on appelle le Code d'Alliance, Exode 20 à 22, où les questions de n'importe quel lieu que Yahvé va choisir pour faire habiter son sanctuaire. Donc, ça peut être n'importe quel lieu, ce n'est pas un seul. En Deutéronome 12, c'est un seul, avec la possibilité quand même qu'on peut abattre des animaux par ailleurs. Et finalement, le dernier, Lévitique 17, il va dire, bon, d'accord, il y a un seul lieu, mais c'est aussi dans ce lieu seul qu'il faut abattre les animaux et on ne peut pas les abattre par ailleurs. C'est-à-dire, nous avons fait trois positions tout à fait différentes par rapport à la fois l'idée de la centralité du sanctuaire et de l'abattage des animaux. Et vous pourrez ajouter à cet exemple, je ne vais pas le faire maintenant, toute une série d'histoires qu'on raconte deux ou trois fois et on voit toujours comment une histoire va répondre à une autre sans éliminer la première. L'histoire la plus connue, c'est celle où Abraham fait passer sa femme pour sa sœur pour s'enrichir ensuite chez Pharaon. C'est une histoire où Abraham a, disons, un comportement pas très, disons, éthiquement un peu douteuse, même s'il y a peut-être des femmes qui peuvent être des sœurs, mais ce n'est pas le problème. Et après, on va raconter l'histoire en disant Abraham n'a pas tout à fait menti parce que Sarah était quand même sa demi-sœur. Mais ça va poser un autre problème parce qu'en Lévitique 18, il est interdit d'épouser sa demi-sœur. Mais tout cela est dans le même ensemble. Et en fait, je pense que ce qui montre le mieux cette identité multiple, je vais m'arrêter avec cela, c'est le texte qui se trouve au centre de la Torah. Parce que les rabbins ont calculé où se trouve le centre de la Torah. Ils ont trouvé le centre de la Torah. Alors ça, vous le prenez avec, disons, toutes les précautions que vous voulez, mais c'est Lévitique 10-16. Et on trouve en Lévitique 10-16 deux fois le même verbe, qui est le verbe d'arache. D'arache, qui veut dire chercher. Chercher. Chercher quoi ? Chercher le sens, chercher à comprendre, chercher Yahvé, ça peut être beaucoup de choses. Et l'histoire qui est associée, c'est une histoire où Moïse va critiquer Aaron. Aaron vient d'avoir une expérience assez douloureuse parce que ses deux fils ont présenté un sacrifice illégitime et qu'ils étaient punis par le feu de Yahvé qui les a tués. Donc Aaron vient juste d'enterrer ses fils et Moïse lui dit « Mais il faut que tu manges d'à part du sacrifice que, selon le texte de Lévitique 6, te revient et il ne faut pas t'en abstenir parce que la loi dit « Le prêtre, lorsque tel type de sacrifice est présenté, doit récupérer sa part. » Ça, c'est la loi. Et Aaron répond « Mais comment peux-je maintenant m'empiffrer de viande alors que mon fils vient de mourir ?» Donc, texte ou cas qui apparemment n'était pas prévu par leur cas. « Si aujourd'hui, après ce qui m'est arrivé, j'avais mangé le sacrifice pour le péché, cela aurait-il plu à Yahvé ?» Selon la loi, oui. Mais ensuite, vous avez simplement que Moïse écoute Shama et cela lui plut. Donc cela fut agréé, c'est-à-dire il y a une sorte de réflexion sur le fait que la loi elle-même doit être transgressée ou réinterprétée, et cela en fait arrive à beaucoup d'autres endroits de la Bible, mais je ne vais pas maintenant les aborder. En vous remerciant de votre attention.
Merci. Vous nous montrez à quel point nous avons besoin de l'histoire pour comprendre les questions qui paraissent prospectives, qui ne le sont pas tant que ça, comme la séparation du religieux, du pouvoir politique et du territoire, ou la question de penser ensemble le particulier et l'universel, l'unité et la diversité. Je crois que c'est extrêmement éclairant pour nous. La discussion va maintenant être ouverte par Olivia Bell, qui est professeure à la faculté théologique protestante de Paris, qui travaille souvent, je crois, avec Thomas Romer.
Oui, bien. Merci.
Ça marche, oui. Il faut parler assez près du micro, ce que je ne fais pas d'ailleurs. Marche pas ?
Je vous le rendrai. Bon, mais merci beaucoup Mireille et Thomas pour cette invitation, pour ce moment. Avec vous, moi je suis très intéressé, notamment je suis en train de créer à l'EHESS, on est en train de faire avec quelques collègues un petit site sur les usages publics du passé. Et donc là, c'est très intéressant tout ce qu'on vient d'entendre de l'exposé précédent comme celui-ci. Je ferai quelques remarques de philosophe plutôt que de théologien, je ne suis pas assez théologien pour cela. Je ferai peut-être jetterai quelques passerelles entre votre présentation de l'ensemble du colloque sur l'humanisation et l'exposé que vient de nous faire Thomas, notamment sur la question du temps. Vous parliez en tête de votre présentation de l'idée qu'il y avait des échelles de temps différentes, une évolution biologique unique, une évolution sociale par diversification, donc processus unificateur, universaliste, l'hominisation. Et d'autre côté, processus diversificateur, relativiste, les humanisations, qui seraient aujourd'hui, et vous l'avez, je trouve très très intéressant comme idée, on va dire problématisées par, d'un côté, une mondialisation juridique, on va dire une sorte un concept de normativité juridique mondialisée, et en même temps, un éclatement de la norme biologique, puisqu'en effet, il y a des possibilités de toucher au vivant, au montage, on va dire, du vivant, et notamment du humain, qui bouleverse complètement notre conception. Et je pensais, en lisant cette présentation que vous faites, je pensais à cette distinction que propose Paul Ricoeur entre ce qu'il appelle le temps cumulatif, le temps technique, dans lequel l'humanité est une, et puis le temps tragique, le temps de la culture, qui se fait à travers justement les générations, les inventions, qui sont réitératives. Il me semble que c'est un des thèmes que je reprendrai de l'idée de ce que nous a présenté Thomas, et qu'on retrouve par exemple chez Michael Balzer, qui parlait de l'idée d'universalité réitérative. C'est-à-dire, ce qui est vraiment universel, en fait, quelque part, il faut tout le temps le réinventer. Ça ne cesse d'être réinterprété, réinventé. Et en même temps, on est guidé par les inventions antérieures qui nous aident, mais quelque part, il faut en même temps les réinventer. Il me semble que vous cherchez donc à construire des interactions entre ces différentes, des tensions plutôt que des espèces de ruptures dangereuses. Il me semble que ce que l'on voit apparaître dans cette formation du canon biblique, c'est justement une mise en interaction obligatoire, je dirais justement, de temporalités différentes. Il me semble que c'est ça que nous avons entendu entre le temps des lois, le temps des prophètes, le temps sapiential, et que même jusque dans ce noyau que Thomas nous a montré sur que construit le milieu sacerdotal entre les deux modèles d'identité, un modèle d'identité plutôt basé sur l'alliance, le pacte. Il y a des suites en philosophie, Kant, Rousseau, etc. Bon. Et de l'autre côté, un modèle plutôt basé sur l'idée de généalogie. Donc une universalité en quelque sorte élective, une universalité, on pourrait dire, de fraternité, hein, de réouverture de patriarches encore antérieures, où on pourrait dire une sorte de solidarité choisie ou de solidarité reçue. Hein, bon, ce sont deux formes de solidarité différentes. Ça touche beaucoup, je dirais, même la conception de ce que sont les identités, mais aussi les solidarités et les liens dans nos banlieues aujourd'hui, hein, en fait. Hein. C'est tout à fait contemporain. C'est des phénomènes sociaux tout à fait contemporains. Il me semble qu'on trouve cela. On trouve dans le texte biblique un véritable laboratoire, je dirais, de cette mise en interaction. Je me demandais d'ailleurs, en t'écoutant, Thomas, s'il n'y avait pas quelque chose comme une... est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu vois un lien? Est-ce que tu fais un lien ou pas du tout entre, justement, le côté... le sacerdotal qui invente cette espèce de montage institutionnel complexe entre généalogie et alliance, le pacte, bon, qui est intéressant d'ailleurs en lui-même, parce que le pacte, c'est le pacte qui suppose des symétrisations, des égaux, alors que la généalogie suppose qu'il y a un rapport entre des grands et des petits, et donc il y a une succession, enfin, il y a une protection des petits par les grands, donc ce sont deux orientations juridiques très anciennes et qui seraient ainsi articulées aussi, d'une certaine manière. Et puis le côté prophétique, qui serait justement le côté attente de l'avenir, et puis alors, le côté, c'était ça ma question, le côté historiographique qui lui serait rattaché à la littérature sapientiale, ou pas du tout, mais en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai cherché à faire des analogies entre des éléments de ton exposé qui n'en ont peut-être pas. Hein. Mais bon, c'est toujours intéressant, je dirais, en tout cas, de voir qu'il y a donc plusieurs figures du temps qui proposent aussi plusieurs figures de l'identité et du coup plusieurs figures de l'universalité. Et puis, donc ça, c'est à la fois une remarque et une question. Et il me semble que ce qui est travaillé à travers tout cela, c'est une conception, c'est une dernière remarque, et en même temps une sorte de question que je te pose, une sorte de conception métaphorique de l'humanité. C'est-à-dire qu'en même temps, l'humanité, on a jamais, quelque part, elle est indéterminée. D'ailleurs, on n'a pas d'image de Dieu. Hein, donc, il y a tout un travail d'interprétation. En même temps, quelque part, l'humanité, elle n'est jamais assez singulière, elle n'est jamais assez universelle. Donc, il y a tout le temps, on retravaille sur les bords. Et on a besoin, je dis métaphorique parce qu'il me semble que, c'est encore une idée de Ricoeur, qu'on a besoin de la métaphore pour dire ce qui est trop singulier ou pour dire ce qui est trop universel. Et pour moi, ça touche la question des droits de l'homme et la question même des droits de l'homme parce qu'il me semble que dans les droits de l'homme, il reste une part métaphorique. Il y a une part qui est, on va dire... langagièrement, on pourrait dire, déterminante, et puis il reste une part réfléchissante dans laquelle on cherche à exprimer quelque chose que l'on exprime encore à travers une gangue métaphorique, une gangue liée à des figures, à des figuratifs, liées à des cultures, liées à des, finalement, à des formes que l'on prend pour dire autre chose, quelque chose de plus vaste, ou quelque chose de plus singulier. Bon, voilà, je m'arrête là, j'ai d'autres remarques, mais je ne sais pas si tu as... C'est pas ça, peut-être qu'il faut que je te. Ce film. Oui. Je sais pas si tu vas y arriver. Pas tellement.
Oh, sans ça, je vais mettre là.
Bah oui, mets-toi là. Ou... Mets-toi là.
Ce n'est pas pour prendre une position d'autorité. De toute façon, j'en ai pas. Par rapport à la question de liens entre différentes visions du temps, je pense que ce qui est assez intéressant aussi, c'est le fait qu'on a en fait arrêté en quelque part au niveau du corpus biblique l'histoire avec les Perses, d'une certaine manière. Parce que contrairement à l'Ancien Testament catholique, où on va avoir l'histoire des Maccabées, on continue en fait avec les Grecs et les Romains, la Bible se termine avec les Perses. Donc, et puis avec un arrangement assez curieux, parce que le dernier livre du canon, toujours, il faudrait découvrir un peu le canon hébraïque, quand même, dans sa structure très très différente de l'Ancien Testament, le dernier mot, c'est que tout le monde monte vers Jérusalem. Donc il y a une sorte d'ouverture quasi eschatologique, donc les histoires d'Esdras, Néhémie qui racontent comment ça s'est fait, on les raconte avant. Et après, on revient sur ce magnifique roi perse qui convoque tout le monde à Jérusalem, ce qui devient aussi un discours mythique ou métaphorique, comme on veut, mais qui montre d'une certaine manière que l'histoire, quelque part, elle a quand même un certain aboutissement qui est probablement quand même cette époque perse qui, pour les rédacteurs bibliques, est une sorte de période presque paradisiaque, le mot paradis vient de Perse d'ailleurs, où en effet il y a cette possibilité d'avoir à la fois une possibilité d'être dans le pays, comme on a aussi la possibilité de vivre son identité de juif en Égypte ou en Mésopotamie. Et donc, je pense qu'il y a, c'est vraiment une question qu'on peut se poser, mais il y a quand même cette idée que l'époque perse est une sorte d'aboutissement, tout en intégrant de nouveau aussi les ouvertures. Parce qu'évidemment, Moïse, quand il meurt, il va le pays, il n'y entre pas. Donc, il y a aussi cette perspective-là. Dans la deuxième partie, il y a une autre perspective eschatologique qui est celui du retour de Élie et de Moïse. Donc il y a toujours, en fait, il n'y a jamais clôture d'une certaine manière, toujours au niveau de la construction et ouverture. Et ce qu'on peut quand même aussi remarquer en ce qui concerne la Torah, c'est que le prophétique, il est très très discret. Les prophètes, on les a mis dans la deuxième partie. Donc je pense que les deutéronomistes et les sacerdotaux, ils ne voyaient pas ces prophètes qui étaient probablement souvent aussi des agitateurs qui voulaient réinstaller la royauté judéenne, qui pensaient que les Perses n'étaient peut-être pas la meilleure manière de vivre son identité. On les a un peu écartés, et puis il fallait attendre 2-3 siècles pour que finalement ils trouvent leur place dans une sorte d'annexe au canon. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais qui montre aussi quand même qu'il y a, alors je dirais, un arrangement très clair avec des réalités politiques. Ça, c'est important. Je pense le Pentateuque, c'est tout à fait l'idée qu'on peut très bien vivre sous les Perses. Il n'y en a pas besoin de revendiquer une autonomie politique ni territoriale. Donc voilà, c'est comme ça que je réponds.
C'est important pour comprendre, au fond, ce que vous avez expliqué au début d'un monothéisme que vous avez appelé inclusif.
Oui.
En fait, on peut dire pluraliste aussi en même temps.
Aussi, oui.
Et je crois que c'est très éclairant, y compris par rapport à la réflexion que nous avons dans le domaine juridique contemporain. Alors, je ne sais pas s'il y a une question. Sinon, je vous remercie encore l'un et l'autre, très chaleureusement.